Voilà, dans ce premier dimanche de l'Avent, je vais commencer une petite série qui s'appellerait « La méthode de Dieu ». Vous savez que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, enfin Dieu est tout. Et donc Dieu ne change pas. Hein, parce que si Dieu pouvait changer ou évoluer, ben, ça veut dire que il n'est plus le même à un moment qu'à un autre et qu'il lui manquait quelque chose à un moment. Donc Dieu ne change pas. Mais il faut comprendre que pour nous, humains, la perception que nous avons de Dieu doit toujours changer, elle est toujours en évolution. Mais aussi, une chose que nous révèlent les Écritures, c'est que si Dieu ne change pas dans qui il est, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il peut faire, il change... Il change dans ses méthodes, mais parce qu'il y a une intention derrière, et pas parce qu'il essaye une méthode et puis il se dit « Ah zut, je pensais que ça allait marcher, ça ne marche pas, alors je vais essayer autre chose. » Et donc c'est pour ça que je voudrais parler de la nouvelle méthode de Dieu. Hein? C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde la façon dont Dieu agit dans l'Ancien Testament, il était étonnamment moderne. Dieu, dans l'Ancien Testament, fonctionnait comme un communicant moderne d'aujourd'hui. Hein ? Que faisait Dieu ? Des choses extraordinaires qui attiraient les regards. Hein ? Quelques exemples, comment il appelle Abraham ? Ben, il lui parle et puis il lui demande de mettre des animaux séparés en deux par le milieu. C'est un truc un peu bizarre pour nous. Et là, tout d'un coup, la nuit vient et il y a du feu qui passe au milieu. Hein ? Vous avez déjà vu des trucs pareils, vous ? Non. Hein ? Moïse, un buisson ardent qui s'enflamme, après la mer qui se sépare en deux, après on tape sur un rocher, il y a de l'eau qui sort. Hein. Josué, le Jourdain qui se sépare, le soleil qui s'arrête dans le ciel. Vous imaginez si quelqu'un aujourd'hui pouvait faire ce genre de choses avec les moyens de communication qu'on a, l'impact que ça aurait. Hein. Mais pourtant, c'est ce qu'on essaie de nous faire. Il se passe un petit truc, il y a un papillon qui se sent mal de l'autre côté de la planète et tout le monde le sait. Il a fait un malaise cardiaque, il est tombé sur une fleur, ça a arraché deux pétales. Hein. On communique partout la moindre petite chose, alors les grandes choses encore plus. Hein. Et Dieu a utilisé cette méthode. J'ai pas parlé d'Élie et Élisée, hein, qui se sont permis une résurrection ou deux, des guérisons de malades, des lépreux, etc. Et Élie qui se paye le luxe d'un départ au ciel en char tiré par des chevaux de feu. Pas des cheveux, des chevaux de feu. Pardon. Ils ont pris feu les miens aussi. Donc vous voyez, la méthode de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était hey, « Je vais vous convaincre que je suis Dieu et que je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et puis, avec ça, il y avait aussi la promesse de la richesse. Abraham, si tu me suis, bah, tu auras plein de femmes, plein de troupeaux et plein de trucs. Hein. Et puis tout le temps, donc, chose spectaculaire, miracle et prospérité, et en plus, utilisation de la force. Hein. Si ton ennemi te résiste, je me battrai avec toi et on va les anéantir et on va les gagner. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Cette description de la méthode de Dieu, paradoxalement, ressemble à ce que le soi-disant christianisme a amené dans notre monde. Hein ? C'est drôle. Hein ? Des grands bâtiments, des cloches, de l'or, de l'argent, des costumes qui brillent, des grands chefs qui dominent les autres, et puis des croisades, l'esclavage et le capitalisme. Hein ? C'est étrange. Parce qu'en fait, ce qui devait être le royaume de Dieu reprend les méthodes de l'ancienne alliance. Mais entre-temps, on semble oublier que Christ est venu et qu'il nous amène le même Dieu, mais une autre méthode. Dieu vient dans la discrétion, la faiblesse et l'humilité. Un petit bébé qui naît quelque part dans une crèche. En plus, il est en danger de mort. Et quand il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se défend pas, il s'enfuit. Et à cause de ça, il y a plein d'enfants innocents qui meurent. C'est horrible. Où est passé le Dieu Tout-Puissant ? Et puis Jésus grandit, et il vient, et Jésus va être bilingue avec le peuple de Dieu. Il s'adresse d'abord à Israël, et il va leur parler dans deux langues. Il va leur parler la langue qu'ils connaissent. Il fait des miracles, plus qu'aucun prophète avant. Il marche sur l'eau, il ressuscite des morts à tour de bras, il guérit des lépreux, il fait plein de choses extraordinaires. Et en même temps, il parle une autre langue. Il est avec les pauvres, il est avec les faibles, il est avec les rejetés. Et puis, il fait plein de choses étranges qu'on ne comprend pas. Et tout le temps, il parle de ce fameux royaume de Dieu ou royaume des cieux. Et les gens religieux qui ont grandi avec cette culture du Dieu communicant moderne qui fait des grandes choses, il faut que ça brille. Le temple, c'était quand même assez bling-bling. Vous imaginez tous ces machins en or de partout, en or massif, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec des pots de cuir teintes en rouge, en bleu, en vert, en jaune, avec des instruments de musique. Et puis quand les gens rentraient, j'avais de la fumée, comme aujourd'hui dans les concerts modernes. Dieu était très en avance sur son temps. Et puis, Jésus est là, et puis lui, il n'a pas de maison, vraiment. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Il avait quand même un peu Béthanie et quelques endroits, mais il ne pouvait pas y rester. Il ne fonde pas de bâtiment, il est habillé simplement, il mange simplement, il vit avec des gens simples, même s'il ne rejette pas les gens sophistiqués. Il est à la fois exigeant et avec un amour incroyable, il est surtout incompréhensible. Et à un moment, donc, dans Luc 17, 20, 21, les gens... spécialiste religieux et politique, c'était la même chose à l'époque. Mais ton royaume, là, il est où ? Parce que c'est bien joli, ça, mais... Hein ? Et vous connaissez le texte, hein ? Luc 17, 20 et 21. Ils demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Changement complet de méthode, le grand renversement. Si vous voulez étudier ce sujet de la plus belle des façons, façon poétique, lisez Le Trébat de Christian Bobin, c'est le plus beau livre sur ce sujet que je connaisse, c'est magnifique. Le Trébat, pas le Très-Haut. Et c'est ce que Christ vient faire et amener, c'est un royaume qui va être complètement, pouf, on retourne tout. Jusque-là, suivre Dieu, c'était devenir riche. Si on obéissait, il y avait des bénédictions matérielles. C'était clair. C'était... Et ce n'est pas inventé, ce n'était même pas une déformation. C'est ce que Dieu avait promis. Suivez-moi et vos troupeaux prospéreront. Suivez-moi, vous ne serez pas malade. Suivez-moi et vos ennemis vont mourir. Suivez-moi et vos frontières vont s'agrandir. Et vous verrez de grandes choses. Sauf que, est-ce que ça a fonctionné ? Ben non. Lamentablement, non. On pourrait dire que, parce que bon, j'ai pas de réponse à pourquoi Dieu a utilisé cette méthode, bien sûr, mais quand même, si on y réfléchit un petit peu, Dieu a commencé à parler aux hommes le langage des hommes d'après la chute, des hommes qui étaient dans, forcément, ils ont pris le côté de l'ennemi, qui était celui qui veut quelque chose, il doit le prendre, le plus fort. C'est celui qui prend. Et si tu ne peux pas m'empêcher de prendre ce que je veux, eh ben alors c'est à moi. Et ça, c'était la règle des hommes. Et Dieu dit, vous voulez que je parle ce langage-là, vous allez voir qu'il n'est pas efficace. Et même en les aidant, ça ne marche pas. Dieu dit, ok, vous voulez ce langage-là, obéissez-moi, suivez-moi, et je vais vous donner ça. Même ça, ça ne marche pas. On pourrait se dire quand même par calcul mesquin, je ne sais pas si on dit à quelqu'un, écoute, voilà, tu vas m'obéir, mais si tu m'obéis, tu vas être riche en bonne santé, toi, ta famille et tes enfants. Même si je n'aime pas celui qui me dit ça, on pourrait penser que je vais être capable de lui obéir pour avoir la richesse, la santé. Ben non, ça ne marche pas. Le peuple de Dieu, pendant toute cette période, cette longue période de plusieurs milliers d'années, nous a prouvé encore et encore, et on est les mêmes, que ça ne marche pas. Et puis Christ vient et la nouvelle méthode de Dieu va nous révéler autre chose. Et j'aimerais lire un deuxième verset. C'est pour ça que je disais que c'était important que je nettoie mes lunettes avant de venir. Pas pour le lire parce que je le connais, mais pour le sens. Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un seau, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors, ce texte, il redit la même chose plusieurs fois, de façon un petit peu différente. Hein. Mais l'idée principale, c'est quoi ? Notre façon de voir va déterminer ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons, et tout le reste, hein. C'est-à-dire notre compréhension et notre regard sur les choses. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être sans arrêt renversés par la parole du Christ, parce que naturellement, notre tendance, c'est la première méthode, la méthode de l'ancienne alliance. Hein. Je vais suivre Dieu et il va me bénir. Je vais obéir et ça va fonctionner. Je vais faire ce qu'il dit et je vais devenir puissant, riche et en bonne santé. Et encore une fois, c'est tellement triste, mais le christianisme historique a suivi cette voie-là. Hein. Prendre le pouvoir politique, dominer, écraser, toutes sortes. Hein. Alors les hommes écrasent les femmes, les hommes et les femmes blancs écrasent les noirs, et puis etc. Et puis, c'est toujours la domination, le pouvoir, la force, et prouver qu'on réussit parce que on a le plus beau bâtiment, le plus grand nombre de gens, les plus grosses finances, les plus belles voitures, et etc. etc. Hein. Et Jésus dit, mais hey, ton œil est en mauvais état, tout le reste ne va pas aller. Hein. On a besoin d'un nouveau regard. Et c'est compliqué parce que ce renversement n'est pas naturel pour l'être humain. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Et donc, si notre œil n'est pas illuminé par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, mais aussi par notre acceptation d'être remis en question et de penser comme Dieu, alors je vais être dans les ténèbres en croyant être dans la lumière. Hein. Et c'est comme ça que, encore une fois, et je ne dis pas ça pour dire qu'avant ils ont mal fait, puis moi je fais bien, hein. Moi, je suis comme tous les êtres humains. Mais c'est comme ça que le christianisme historique a pu justifier l'esclavage à cause des fils de Noé, qui je ne sais pas quelle bêtise, qu'on a pu justifier plein de choses comme ça. C'est tout le contraire. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas contre les richesses. Hein, mais il dit, c'est super si tu es riche. Une fois que tu as ton nécessaire, donne le reste pour aider ceux qui n'ont rien. Hein. Vous voyez, c'est complètement... Avant, il fallait amasser. Hein. Plus Abraham était béni, plus il avait de chameaux, de bœufs, de moutons, de je ne sais pas quoi, de serviteurs. Hein. Puis il les gardait pour lui, parce qu'il prospérait et il pouvait dire, vous voyez, Dieu me bénit, je suis riche. Hein. Job était comme ça, et tous. Et maintenant, Dieu dit, mais vous pouvez devenir riche, c'est super, si vous en avez l'opportunité, mais devenez riche. Pas malhonnêtement, bien sûr. Hein. Comme ça, vous pourrez donner beaucoup. Hein. Parce qu'il y a des gens qui, eux, ben, ils font tout ce qu'il faut, mais ils ne deviennent pas riches. Et ils ont besoin que notre superflu pourvoie à leur nécessaire. C'est le royaume de Dieu. Et ce regard a besoin d'être nettoyé tous les jours. Parce que, c'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas instinctif, ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans la culture des hommes, mais en plus, pour notre plus grand malheur, le christianisme déformé, on a été éduqué dedans aussi, et là je ne parle pas d'une église en particulier, je parle de façon générale, qui fait qu'on est toujours là-dessus, hein. On est toujours à l'envers. Et sans arrêt, on doit accepter chaque jour que la pensée, la parole de Dieu, l'amour de Dieu retourne les choses. Quel est le marqueur normalement de l'évangile ? Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et puis, si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le serviteur de ses frères et de ses sœurs, bien sûr. Voilà les deux grands marqueurs de l'évangile. S'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, hein, c'est-à-dire donner sa vie pour les autres. Et puis, si je pense que Dieu m'a appelé à être un grand, un chef, c'est bien, il en faut. Alors je suis là pour servir. Et c'est fou parce que quand on pense à ça et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le christianisme, donc qui n'en est pas un, regarde des gens qui sont non-croyants et disent ils sont contre le christianisme. Ils ne sont pas contre le christianisme. Ils sont contre le fait que les riches écrasent les pauvres. Ils sont contre le fait que les forts dominent les faibles. Ils sont contre le fait que un tout petit nombre de gens sur la planète possède 180% des richesses du monde, etc., etc. Et je ne dis pas que la façon dont ils font comme ça est bonne ou que ça fait d'eux des gens qui connaissent Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ont raison sur le constat. C'est quand même cette fausse compréhension du christianisme qui a amené à ces erreurs-là. Et la venue de Christ est venue inaugurer cette nouvelle méthode. Et puis il va le faire toute sa vie, même s'il parlait l'autre langue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on a eu des manifestations de la puissance de Dieu. Dieu est puissant, hein, tout puissant. Et il a utilisé sa puissance pour montrer sa puissance. Ça n'a rien changé. La nouvelle méthode de Dieu, Dieu reste puissant puisque Dieu ne change pas. Elle ne nous montre pas la puissance de Dieu, elle nous montre le cœur de Dieu. Et ça, c'est la grosse différence. La puissance de Dieu n'a pas changé le cœur des hommes. Ça peut leur faire peur, ça peut leur donner envie. Ah ouais, si on le suit, on sera riche. Ouh, il est tellement puissant qu'il vaut mieux lui obéir. Mais ça ne marche pas, ça ne tient pas dans le temps. Ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas marché pour devenir riches, ni parce qu'ils avaient peur, ils avaient rencontré le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit de David, qui était quelqu'un qui a fait des choses horribles aussi, hein, mais il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et malheureusement, ben, son fils qui a eu beaucoup de richesses et beaucoup de puissance a mal tourné, hein, parce que c'est l'épreuve la plus difficile. Et c'est pour ça que c'est... C'est compliqué à dire, mais est-ce que c'est une bénédiction de vivre de naître dans un pays riche et prospère? Je ne sais pas. C'est une grande responsabilité en tout cas, mais c'est une épreuve très difficile parce que c'est une épreuve où on a le choix. Quand je n'ai pas grand-chose, je ne peux que demander à Dieu de m'aider. Quand j'ai à peu près ce qu'il faut, je dois décider de demander à Dieu de m'aider. Et puis de faire ce qu'il y a à faire pour servir les autres, pour donner ma vie, pour aimer. Mais voilà, on est où on est, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est important pour nous de comprendre ce basculement. Et je termine, je ne vais pas faire long, hein, j'arrive au bout. Quand on a chanté le dernier chant, merci messieurs, j'aimerais qu'on le reprenne après. Je l'écoutais, il m'a touché, enfin tous les chants m'ont touché ce matin, c'était beau. Vous donner un petit exemple de comment notre regard doit changer. On chante ce chant qui dit « Je te donne tout », etc. Et puis Pascal avait dit ben « Moi, je n'osais pas le chanter à une époque parce que je te donne tout. » Mais non, je ne te donne pas tout. Je te donne tout, sauf ma voiture, ma maison, mon compte en banque, ma santé, ma femme et mes enfants, tout le reste. Mais dans la compréhension naturelle, « Je te donne tout » serait « Ben voilà, je te donne tout, je vais me sacrifier pour toi, même si je n'ai pas le courage, mais je vais le faire. Hein. » Mais si je comprends en fait ce que Dieu veut, « Je te donne tout », ce n'est pas tant lui dire « Je te donne mes richesses, mon temps et mon argent. Hein. » Je te donne mon manque d'envie de te donner tout. Je te donne mon incapacité à te donner tout. Je te donne ma faiblesse qui fait que je n'ai pas envie de toi. Je viens à toi, voilà. Dans l'ancienne compréhension, c'était je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu sois content, et je vais m'engager plus, et je vais faire plus, et je vais travailler, et tu vas voir pour toi, avec tout ce que tu as fait, parce que tu es mort ressuscité pour moi, alors maintenant, moi, je vais. et tu vas voir le résultat. Non, ça c'est de manière à frapper les regards. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et en fait, Dieu utilise des gens faibles, des gens cassés, fracassés, abîmés, pas parfaits. Et encore une fois, ce n'est pas à nous d'essayer d'être moins bien que ce que nous sommes. On continue de faire nos efforts pour être bien. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais ce n'est pas ça. La méthode de Dieu, c'est... voilà. Il prend un fou furieux comme Paul, un fanatique religieux, assassin, meurtrier, sanguinaire, hyper autoritaire, peut-être un brin, je ne sais pas trop quoi, pervers narcissique, etc. Et puis il se dit, je vais en faire le champion de ma grâce. Et comment il fait ça? D'abord, il le rend aveugle. Et puis il fait tout perdre. Avant, il avait du succès, ce gars, hein. Dans sa culture à lui, dans les deux cultures d'où il venait d'ailleurs, la juive et la grecque, c'était le mec qui avait réussi, hein, par le travail, par l'acharnement, il avait réussi, il était quelqu'un. Mais après sa conversion, hein, voilà, il devient un bonhomme qu'on descend dans un panier avec une corde, hein, c'est pas très glorieux, il va se cacher au désert, après il fait la prison, il perd tout, sa réputation, en fait tout. Et puis il dit, mais tout ce qui était pour moi, qui avait de la valeur, je l'ai considéré comme des poubelles, des ordures, pour gagner Christ et d'être trouvé en lui avec sa justice et pas la mienne. Voilà. Et c'était un bonhomme complètement, ouais, qu'on aurait détesté, je pense, si on l'avait connu, hein, avant. Après, c'était le même, mais sauf qu'il était racheté par la grâce de Dieu. Hein. Et ça, c'est le royaume de Dieu. C'est que bah, il est fait de gens comme ça, des gens comme moi, des gens comme, pas comme vous, vous êtes des gens bien, mais comme tous les autres. et voilà. Et je trouve, moi, ça me fait du bien, je trouve ça reposant. Parce que oui, c'est compliqué, tous les jours, il faut recommencer, c'est tout le temps à refaire, parce que naturellement, moi, je veux réussir, je veux être fort. Je suis dimanche dernier, on est sorti de ce local content. Pourquoi ? La salle était pleine. Ah, ça fait plaisir. Hein, ah, il y a des jeunes, c'est bien. Là, il y a plein de musiciens. On arrive ce matin, on dit ça. Il y a plus de chaises vides que de pleines. Bon, les chants étaient bien aussi, quand même. Merci. Mais on peut se dire, ouais, on a réussi dimanche dernier, on a échoué ce dimanche-là. J'en sais rien. Moi, je me réjouis quand on est plus nombreux, mais pas parce que la salle est pleine, parce que les gens qui sont là, je les aime tous. Et plus la famille est réunie, plus ça me fait plaisir. Mais quand même, derrière chez moi, il y a cette idée que j'ai mieux réussi dimanche dernier qu'aujourd'hui. Enfin, pas moi, mais hein, vous voyez ce que je veux dire ? On est comme ça, on est comme ça. C'est pas grave. Mais il faut que notre œil y voit bien et chaque fois revenir à Dieu et je te donne tout. Mon désir de réussir, d'être vu comme celui qui arrive, comme ci, comme ça. Puis bien sûr qu'on veut que tes plans aient du succès, et on veut que des gens connaissent Christ, et que d'autres qui ne le connaissaient pas le connaissent, et que ceux qui le connaissent grandissent. Je ne suis pas en train de dire qu'on veut que tout le monde aille de plus mal en plus mal. Hein. Mais on a notre façon à nous, et ben, on préférait l'ancienne méthode quand même. Je fais ce que j'ai à faire, tu fais ce que tu as à faire, moi je t'obéis au moins dans les grandes lignes et toi tu me bénis et tout va bien. Et le royaume de Dieu est différent, pas de manière à frapper les regards. Et c'est intéressant parce qu'on vit dans un monde qui est à l'image de l'ancienne méthode. Il faut que ça brille, il faut que ça se voit, que ce soit... et je parle à croyant, non croyant. Et puis c'est le succès mesuré avec ça, et au milieu de ça, il y a ce royaume de Dieu qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas d'étincelles. Tous ces gens abîmés, qui ont échoué, qui n'arrivent pas, qui ne savent pas, qui cherchent, qui doutent, qui se posent des questions, qui ne sont pas sûrs, qui se demandent, mais qui se tournent vers Christ et qui disent, ben, c'est moi, si tu me veux comme ça. Et Dieu dit, mais bien sûr que je te veux comme ça. Sinon, pourquoi j'aurais eu besoin de sacrifier mon fils si tu pouvais le faire tout seul, hein? Pourquoi? Non, je te veux comme ça. Et je veux que tu changes, je veux que tu sois plus sain, je veux que les mauvaises choses disparaissent de ta vie. Mais elles vont se faire, pas en te battant pour être le plus fort, mais en acceptant, en recevant cet invisible royaume, et en le vivant, il est caché à l'intérieur. Hein. Et puis on est passé d'un temple avec des trompettes, de l'or, de la fumée, à « va dans le secret ». Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pas en richesse forcément, mais te le rendra. En richesse intérieure, en paix, en tranquillité, en sens dans ta vie, en tout le reste. En plénitude de vie, cette vie éternelle, qui n'est pas juste le ticket pour échapper à la rôtissoire, mais qui est vivre avec Dieu, jour après jour. Et ben même ça, je n'y arrive pas, je n'en ai pas envie. Mais c'est pour ça que je te donne tout, aussi mon manque d'envie de vivre avec toi. Alors je termine là.